Bonjour, je suis Thomas Bortolato, animateur de la librairie des étudiants sur Radio Campus Grenoble 90.8. Avant de vous laisser découvrir l'entretien réalisé avec Étienne Kern à Lyon, je voulais vous dire quelques mots. Lors de l'entretien, j'ai rencontré un souci matériel pour enregistrer nos voix. Ce que vous allez entendre est une reconstitution montée et mixée afin de préserver le propos d'Étienne Kern. Cela n'enlève en rien le caractère audible de l'auteur, mais il me tenait à cœur de vous le préciser. Et je tiens à m'excuser pour la gêne occasionnée. Je vous souhaite tout de même une bonne écoute. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de la librairie des étudiants aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver car nous commençons ensemble les entretiens de cette nouvelle saison radiophonique littéraire. 3 ans après la publication de son premier roman, Les Envolés, paru aux éditions Gallimard, notre auteur du jour revient sur le devant de la scène littéraire avec son nouveau roman, La vie meilleure, paru lui aussi dans la collection blanche des éditions Gallimard cet été. Avec ce roman, nous allons tenter de chercher quelle place occupe la joie dans notre vie. Bonjour Étienne Kern.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation pour cet entretien. Votre nouveau roman vient de paraître aux éditions Gallimard, La vie meilleure, dans la collection blanche en août dernier. C'est déjà le phénomène en partie de la rentrée littéraire, et quelle surprise de savoir qu'il y a quelques jours, vous avez été nommé dans la liste du prix Goncourt, dans la première sélection. Alors, ma première question est simple, quelle émotion vous a traversé depuis cette nomination ?
Quelle émotion ou quelles émotions au pluriel, parce que j'arriverai pas en une seule phrase à faire le tour de tout ce qui peut traverser mon esprit. Beaucoup d'incrédulité. Et je crois qu'on peut vous répondre plus précisément que ce que ça éveille le plus en moi, ce sont de vieux souvenirs de lycéens, parce qu'il y a 25 ans, j'étais en première, ma classe participait au prix Goncourt des lycéens. Et me dire que je vais me retrouver dans cette aventure, mais de l'autre côté, je trouve ça absolument magique et intimidant.
L'incrédulité, c'est de se dire que vous ne méritez pas forcément cette place-là ?
Oui, c'est certain, parce qu'on voit tant de livres qui s'imposent, qui se confrontent aux contemporains de manière beaucoup plus évidente que mon livre sagement historique, qui certes a quelques échappées vers le monde d'aujourd'hui, mais enfin, j'ai quand même l'idée qu'un grand roman doit embrasser le présent. Et c'est pas vraiment ce que je fais ici.
Alors, est-ce que ça a été la même sensation avec votre premier roman, Les Envolés ? Vous aviez reçu le prix Goncourt du premier roman.
Les proportions ne sont pas exactement les mêmes entre le Goncourt du premier roman et cette liste du Goncourt tout court. Du temps a passé aussi, mais l'incrédulité reste, c'est vrai.
La vie meilleure, votre nouveau roman, Étienne Kern, s'ouvre sur une arrivée. Un homme arrive à New York, aux États-Unis, la soixantaine passée, les cheveux gris, mais le regard pétillant et le sourire aux lèvres. Cet homme, il est français et il s'appelle Émile Coué. Cet homme est reçu sur le quai comme une rockstar, il devient la clé du bonheur et de la joie. Parmi les autres membres du Majestic, le paquebot qui vient d'accoster, Émile pourrait être un homme de l'ombre, par rapport aux autres personnalités qui débarquent elles aussi. Cet homme est aujourd'hui très connu pour sa méthode, dite la méthode Coué. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
Oui, alors, il est connu pour son nom et pas pour son prénom. Le livre lui rend en quelque sorte son prénom d'Émile. Alors Émile Coué était pharmacien et dans les premières années du XXe siècle, il met au point la fameuse méthode Coué, qui est une méthode une pratique thérapeutique qui doit nous aider à nous sentir mieux, tout simplement être mieux portant. Le principe de base de la méthode est que notre imagination est la plus puissante des facultés de notre esprit, beaucoup plus que notre volonté. Et sur cette base, Émile Coué affirme que pour être en bonne santé, il suffit de commencer par imaginer que nous sommes en bonne santé. Et à partir d'un moment, par une forme d'auto-suggestion, de conditionnement de soi-même, assez miraculeusement, parce qu'il n'est pas capable d'expliquer ce qui se passe, assez miraculeusement, il y a des effets concrets. C'est une méthode qui est très souvent tournée en dérision. Et il est vrai qu'on va voir les textes de Coué, il nous promet par exemple qu'un homme chauve peut retrouver ses cheveux par l'autosuggestion, ce genre de choses. Il y a des choses qui sont délicieuses tellement elles sont absurdes. Et l'ensemble est évidemment très simpliste. Parce que les forces qui nous conditionnent en profondeur sont beaucoup plus puissantes que notre imagination. Mais je crois que c'est justement ce côté un peu comique, un peu ridicule qui m'a d'abord attiré vers Coué. Le discrédit dans lequel il est tombé, Le héros de mon roman précédent, Les Hommes Volés, était déjà quelqu'un dont on se moque assez volontiers sur Internet, parce qu'il trouve la mort de manière assez pathétique en sautant de la tour Eiffel avec un parachute qui ne s'ouvre pas. Et quand on voit les images, on a l'impression d'une sorte de sketch, quoi, ou de gag avec Charlie Chaplin. Emile Coué, c'est un peu pareil. J'ai conçu ce livre comme le deuxième volet d'un diptyque, où il s'agit d'explorer la figure du perdant, mais aussi la figure de l'inventeur philanthrope et maladroit.
Vous l'avez dit, Émile Coué était pharmacien de profession. Est-ce que vous croyez qu'il était aussi lucide sur le fait qu'il ne pouvait pas tout guérir par son optimisme et sa joie ?
Oui, heureusement pour lui quand même. Dans les textes qu'il a laissés, il prend le soin de préciser que la méthode peut soigner dans la limite du raisonnable. Que la méthode ne soigne pas le cancer, par exemple, ou des lésions graves, ou des troubles très graves. Hein. D'ailleurs, les gens qui venaient consulter étaient surtout confrontés à des troubles psychosomatiques ou des choses qui, finalement, avaient tendance à se guérir un peu d'elles-mêmes. Mais on a des témoignages qui laissent à penser que par moments, il se laisse emporter, il promet plus que ce qu'il écrit, parfois il confine à une forme de charlatanisme. Mais il n'a jamais franchi cette frontière incertaine entre des pratiques thérapeutiques alternatives, si vous voulez, et l'exercice illégal de la médecine. À un moment, une enquête est lancée, puis elle est classée tout de suite, parce que les médecins envoyés constatent que, en fait, il ne fait de mal à personne.
On découvre Émile Coué sous votre plume, un homme qui écoute attentivement, avant de redonner du courage et de la détermination à ses patients. Un homme qui vit aussi très vite, qui part partout, entre l'Angleterre et les États-Unis, et malgré les grandes épreuves qu'il a pu traverser avec sa femme, Lucie, il revient auprès d'elle. Alors, est-ce que Lucie était une clé nécessaire pour tenter de comprendre, peut-être de percer le mystère Émile Coué?
Je crois que oui. On a malheureusement très peu de documents sur Madame Coué, mais les documents que nous avons insistent sur la bonne entente de ce couple, sur le rôle actif qu'avait cette femme, qui pratiquait elle aussi cette fameuse méthode, recevait des patients, et puis a continué des années et des années après la mort de son mari à pratiquer la méthode dans la maison qu'ils habitaient à Nancy. Alors, mon texte est un roman, donc il y a forcément une part de réinvention du personnage, puisque je ne sais pas ce qu'il se disait en réalité. Le pacte de lecture est tout à fait clair. À un moment, je dis « je fais du coué, j'imagine ». D'ailleurs, il y avait quelque chose d'un peu grisant. Imaginez la vie de cet homme qui plaçait l'imagination au cœur de son système de pensée.
À travers votre roman, Émile Coué va être confronté à la détresse plusieurs fois, notamment lors de consultations avant de mettre en place sa méthode, ou encore par la perte d'un enfant. Il était appelé par tous et chacun semble être marqué par le fait que presque quelque chose ne va pas.
Oui, alors, perdre un enfant, dans le texte, c'est plutôt une fausse couche. Alors, on peut discuter de où commence la perte de l'enfant, etc. Enfin, c'est des questions qui sont très délicates. Il est certain que le personnage tel que je le conçois est confronté à des absences, à des manques. Que ce soit l'absence de la figure paternelle qui a un rôle important dans le livre ou l'absence de cet enfant désiré. On est assez largement dans la part d'invention du roman, ce qui est aussi une manière de créer un effet d'écho avec des personnages bien réels dont je parle dans le livre. Par ailleurs, on pourra en parler. Mais je crois plus profondément qu'il est certain que
le bonheur,
que la joie, la quête
ou
de
la
joie,
beauté dans les moments où rien
ne peut être que le revers d'une confrontation aux épreuves de la vie.
D'une grande tristesse, on en fabrique la joie.
C'est ça, où on essaie d'en trouver une.
Et puis, il y a aussi le personnage de la jeune fille, Annette. Les médecins la condamnent, mais Émile Coué y croit. Sous hypnose, il l'écoute, il promet de la guérir et qu'elle sera forcément en pleine forme à l'automne prochain. Est-ce que nos joies et nos bonheurs sont régis par une envie de quelque chose? Est-ce qu'on doit avoir une volonté d'accomplir un objectif dans le temps pour aller mieux?
Émile Coué, en tout cas, aurait répondu que ça engage forcément un certain rapport au temps, puisqu'il nous incitait à répéter chaque jour, tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et l'idée même de mieux en mieux implique un processus qui avance et qui donc nous envoie vers l'avenir. Dans le cas du personnage d'Annette, j'imagine Coué, d'ailleurs Lucie le lui reproche, qu'il se laisse emporter, à promettre quelque chose de déraisonnable, à s'engager beaucoup plus que ne peut le faire un véritable thérapeute, en disant à cette jeune fille qui se remet très lentement d'une attaque cérébrale qu'elle ira mieux dans un an exactement, quand l'automne sera de retour. Et par miracle, ça marche. Mais je me garde bien de dire dans le texte si c'est vraiment grâce à lui ou si c'est pas presque de la chance. Et c'est une question que Coué finit par se poser lui-même dans le livre. J'imagine un Coué qui s'interroge lui-même sur la véritable efficacité de sa méthode. Et pour tout dire, je ne peux pas prouver que le véritable Coué était à ce point habité par le doute. Cela dit, des textes très beaux qui parlent de lui, insistent sur la tristesse assez étonnante qu'on pouvait lire dans les yeux de cet homme qui par ailleurs était si joyeux et si jovial. Il y a un témoignage qui dit par exemple qu'on a l'impression qu'il porte une tristesse en son cœur. Ça peut être beaucoup de choses, cette tristesse. Mais je me demande si c'est pas la peur obscure d'être une sorte de charlatan malgré tout. Malgré sa sincérité, parce que je pense qu'il était sincère.
Il aurait donc lui-même compris que distiller du bonheur marque le fait que ce n'était pas forcément réel.
Oui, c'est pas forcément réel parce que, encore une fois, tout repose pour lui sur l'imagination, le langage, le pouvoir des mots. Et le grand sot qui considère que ce travail sur du vent peut avoir un effet réel, ce grand sot est au moins discutable. Mais j'insiste sur l'imagination, le pouvoir des mots, le langage, parce que c'est aussi l'une des choses qui m'ont fasciné avec le personnage de Coué, parce que ça fait lui une figure de créateur, d'artiste en quelque sorte, de double possible de la figure de l'écrivain. Parce que le langage et l'imagination, c'est précisément ce qui est au cœur de la relation d'un lecteur et d'un auteur. Lire ou écrire ou pratiquer la méthode Coué, d'une certaine manière, ça se rejoint dans le langage et l'imagination.
C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, vous vous êtes aussi retrouvé comme Coué à vendre de l'imaginaire ?
C'est ça, parce que quand on invente une histoire, on demande à nos lecteurs d'imaginer. Et on est un peu charlatan, parce qu'on sait bien au fond de nous que c'est pas vrai. Mais on sait aussi que le lecteur accepte tout à fait que ce ne soit pas vrai, c'est le fondement du pacte romanesque. Et on a un peu l'illusion que ces choses imaginaires feront peut-être un peu de bien au lecteur, d'une manière ou d'une autre.
En donnant tant de joie ou de bonheur aux gens, Émile Coué cherche à combler quelque chose en lui. Est-ce qu'il finit par s'oublier lui-même ?
Sans doute. Et là, pour le coup, je veux appuyer sur des documents. Une très belle lettre de Lucie, la vraie Lucie, l'épouse de Coué, qui dit, après la mort de son mari, quelques semaines après, que dans les derniers mois de sa vie, il était physiquement très affaibli, il était malade, et il était plus malade que les patients qui venaient le consulter, dit-elle. Et il est certain que le rythme effréné qui est le sien dans les 5 ou 6 dernières années de sa vie ont joué un rôle dans son affaiblissement. Parce que la méthode, il la met au point vers 1910, vraiment, la méthode telle qu'on la connaît, et ça décolle, entre guillemets, avec la Première Guerre mondiale, parce que comme les médecins, les vrais médecins, si j'ose dire, sont ou bien sur le front, ou bien confrontés à des pathologies ou des troubles vraiment extrêmement graves, Émile Coué occupe un espace et offre une réponse à des personnes qui sont traumatisées par la guerre, sont sujets au stress, ce genre de choses. Et après la guerre, ça continue. Après la guerre, ça continue pendant ce qu'on appelle les années folles, et c'est pas pour rien, parce qu'il fait un peu partie de cette folie généralisée. Et ça prend un tour international, parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il est invité en Angleterre, aux États-Unis 2 fois, et au moment de sa mort, il espère encore aller en Inde, parce qu'un Maharaja s'était pris de passion pour la méthode Coué, et est même venu le voir à Nancy. Et il y a justement une lettre de ce Maharaja, une lettre en anglais, qui écrit à M. Coué, « J'espère que Madame Coué va cesser de vous empêcher de venir, en gros. » Parce que, et on sent bien que cette épouse, soucieuse de l'état de santé de son mari, freinait cet emballement qu'il a laissé lui-même prospérer autour de lui.
Vous l'écrivez aussi qu'Émile Coué est entre deux mondes, entre le sien et le nouveau.
Oui, en fait, aussi je projette sur lui, hein. C'est un roman. Mais je pense que quand on devient brusquement une célébrité mondiale à 60-65 ans, quand on est un pharmacien formé en France vers 1870 et qu'on se retrouve dans le monde des gratte-ciels et des avions, etc. aux États-Unis, il y a un moment où on se sent forcément en décalage.
Avant le début de votre roman, vous citez Roland Barthes. Voilà une définition du roman, célébrer ce qu'on aime. Est-ce que Émile Coué, cet homme, est devenu un de vos héros que vous aimez ?
La phrase de Barthes sur la célébration de ce qu'on aime, en réalité, ne porte pas sur Coué, mais porte sur Irénée André, ma marraine et mon parrain, qui occupe une place certes secondaire en nombre de pages, mais centrale pour moi dans le livre. Je réponds pas à la question de l'héroïsme, mais bon, je réponds à la question de la célébration. Le point de départ à la base est purement contingent. J'ai commencé à travailler sur Coué, à écrire, au moment où mon parrain et ma marraine ont commencé à décliner, et puis petit à petit sont allés vers leur mort. Ce qui me préoccupait, c'était à la fois Coué et Irénée André. Et à mesure que le temps a passé, je me suis rendu compte qu'il y avait, du moins à mes yeux, des résonances, des échos, parce que ce couple qui a tant compté pour moi a toujours été confronté à la maladie. Je les ai toujours vus très affaiblis, etc. Et confrontés à des drames terribles, et malgré tout, faisant tout pour vivre la joie, alors qu'ils avaient perdu un enfant. Et donc, ils sont devenus un peu l'image à la fois de Coué, dans la quête effrénée de joie, et des patients de Coué. Typiquement, c'est les gens à qui Coué pouvait s'adresser. Et donc tout a fini par s'entremêler dans mon esprit.
À la page 110 de votre roman, vous donnez la parole à Dominique, une sophrologue qui est membre d'une association qui s'inscrit dans les pas d'Émile Coué. Elle dit ceci, « Il n'y a pas de hasard ». Est-ce que vous pouvez nous préciser cette phrase dans votre roman?
Il n'y a pas de hasard, c'est vrai. Dominique est un personnage réel, son vrai nom d'ailleurs. Elle est sophrologue à Nancy, enfin juste à côté de Nancy, et elle s'occupe d'une association qui s'appelle Sur les pas de Coué, et qui aujourd'hui encore fait tout pour mettre à l'honneur la méthode Coué. Pour ma part, je suis pas. Enfin, mon but n'est pas de réhabiliter la méthode Coué. Elle fait ça très bien et beaucoup mieux que moi. Mais je suis entré en contact avec elle. Je suis allé suivre un stage qu'elle a donné. Et ça m'a beaucoup touché de voir ce qui pouvait amener des personnes réelles aujourd'hui à vouloir pratiquer cette méthode. Effectivement, elle m'a dit qu'il n'y a pas de hasard et la formule réapparaît dans le livre.
Il faut aussi préciser que depuis le décès d'Émile Coué, justement, vous écrivez aussi à la fin du roman qu'il y a presque un oubli, en tout cas du personnage et de ce qu'il était, pour autre chose.
Oui. La méthode Coué survit très peu à son inventeur. Quasiment dès sa mort, les instituts Coué qu'il a fondés dans le monde entier ferment. À New York, ça dure jusqu'en... Je ne sais plus, années 40. Ça dure une quinzaine d'années, puis pareil, ça ferme. Parce que c'était en fait inséparable du charisme de cet homme en particulier. Et surtout que le principe de réalité est toujours plus fort que le principe de plaisir ou d'imagination. Donc il y a un moment où on passe à autre chose. Un effet de mode aussi hein, qui passe. Donc il tombe dans l'oubli. Mais ce qui est au cœur de sa pensée, c'est-à-dire en gros la pensée positive, c'est-à-dire en gros aussi l'idée que nous pouvons par un travail sur nous-mêmes améliorer quelque chose à la marge, hein, améliorer quelque chose à notre vie. Tout ça, c'est une intuition qu'on retrouve vraiment au cœur aujourd'hui du développement personnel, du coaching, de la sophrologie, de différentes pratiques, parfois respectables, parfois un peu moins, enfin, parce qu'il peut y avoir des dérives, évidemment. De sorte que Coué est un peu un fantôme de notre époque. Il est là, mais on l'a oublié. Oui, c'est l'un des précurseurs dans cette longue histoire du développement personnel qu'on pourra faire remonter jusqu'à la philosophie grecque de l'Antiquité, hein, si on veut. Puisqu'il s'agit toujours de chercher le bonheur et la santé.
Un peu plus tard, vous avez aussi un quiproquo avec Dominique. Elle vous demande pourquoi vous écrivez sur Émile Coué. Qu'est-ce que vous imaginez quand vous écrivez un roman? Sur quoi vous lui répondez « Je le donne à quelqu'un ». Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer cette phrase?
Alors, pour être franc, à la base, cette réponse n'est pas un objet littéraire, n'est pas une phrase de roman, parce que c'est ce que j'ai réellement prononcé. Et je visualisais mon éditrice. Parce que la visualisation peut avoir un rôle important dans toutes ces pratiques plus ou moins thérapeutiques. Et effectivement, ce que j'imagine quand j'écris un roman ou l'achèvement du roman, c'est le moment où je remets un texte ou un morceau de texte, en tout cas, à Charlotte, mon éditrice incontournable et si précieuse chez Gallimard. Il est certain que lorsqu'une phrase réellement prononcée entre dans un roman, elle change de statut. Et elle fait partie d'un tout. Et donc elle s'éclaire par le reste, ou elle éclaire le reste, ce qui fait que ce quelqu'un à qui je veux donner quelque chose, ça devient aussi Irène et André, ça devient aussi ces êtres qu'il s'agissait de célébrer, pour parler comme Barthes, et ça devient évidemment les lectrices, les lecteurs à qui j'adresse ces mots. Le livre est un don, il ne m'appartient plus.
Donc une fois qu'il est publié, il est mis entre les mains des lecteurs et des lectrices.
Oui.
Au début de votre roman...
J'aimerais qu'on parle maintenant de la place de l'image. Dès l'ouverture de votre roman, vous nous faites voir ces images de l'arrivée du paquebot, du Majestic, d'Émile Coué à New York. On se rappelle du petit film de votre précédent roman, Dans les Envolées. Quelle place vous donnez dans la littérature, aux images, au cinéma, voire même aux arts en général?
Je réponds d'abord sur la question des images. Les premières pages du roman insistent, au contraire en fait, sur l'absence d'images. Je décris une scène en précisant qu'elle n'a pas été filmée, par opposition à une scène qui a lieu quelques jours plus tard. Et pour tout dire, c'est une sorte de clin d'œil intertextuel, un peu facétieux, par rapport aux envolées, puisque les envolées reposent entièrement sur les images, sur les photographies, le film, qui enregistre la mort de Franz Reichelt, et je commence La vie meilleure avec une absence d'image et en même temps la description d'un homme qui est appuyé à la rambarde d'un paquebot. Et s'il appuie à la rambarde, c'est aussi pour faire un clin d'œil qui fait de lui une sorte de double de ce Franz appuyé à la rambarde de la tour Eiffel. Mais je reviens à votre question. Le rôle que j'accorde au cinéma, aux images, je crois que mon imagination est assez visuelle.
Vous voyez le livre avant de l'écrire ?
Oui, je crois que je peux dire ça quand même. Je vois le personnage avant de l'entendre parler.
Cette image dont on parle depuis le début de l'entretien, on le voit avec Émile Coué, qui devient une rockstar, une figure papale, lorsque les gens vont même demander à ce qu'ils bénissent leurs enfants. Est-ce que c'est un véritable besoin qu'ont les gens de rêver ?
Je réponds très simplement, oui. Je crois que c'est un besoin qui est ancré dans l'espèce humaine depuis toujours et qui ne peut pas disparaître.
Est-ce que les gens ont perdu l'habitude de rêver aujourd'hui ?
Je crois pas. Je crois simplement que ce rêve prend des formes extrêmement différentes, toujours neuves, mais qu'au fond, la nature humaine ne change pas beaucoup, je crois.
Vous nous parlez des optimistes, surtout avec Émile Coué, qui reste un grand optimiste. Sont-ils encore vus aujourd'hui comme des fous ? Ou au contraire, est-ce qu'on devrait plus les écouter, les optimistes ?
Je crois en tout cas qu'il faut du courage pour être optimiste. Et qui dit courage, dit que ça appelle un minimum d'admiration ou de respect. Donc oui, je crois qu'il faut écouter les optimistes. Mais je suis pas sûr de l'être beaucoup moi-même.
Par rapport au monde actuel ?
Oui, par rapport au monde actuel. Puis par rapport tout simplement à la condition humaine. Enfin, y a une phrase qui est horrible, mais qui me hante, qui est une phrase de Kerouac qui dit « J'écris ce livre parce que nous allons tous mourir ». Et c'est pas très joyeux.
C'est pas très coué.
Mais je crois que si j'ai écrit sur un optimiste, c'est peut-être aussi parce que je me reconnais pas très spontanément dans son schéma de pensée. C'est aussi la différence, l'écart qui m'a emmené vers lui. Et j'irai aussi un rapport au langage qui est très différent. Parce que le langage de Coué est un langage qui repose sur la répétition et l'injonction. Je sais pas qu'il donne des ordres, mais enfin... il est dans le rôle du maître à penser face à un groupe qui a dit vous allez faire ça, vous allez dire ça, vous allez dire ça, etc. Quelque chose de très injonctif et donc d'infantilisant que j'aurais du mal, je crois, à supporter dans la vie. C'est mon personnage, mais je ne sais pas si j'aimerais l'avoir en face de moi à me donner des leçons toute la journée. Tandis que mon rapport au langage est beaucoup plus du côté de l'hésitation et du doute et d'une fascination pour le silence, je crois.
Est-ce que depuis que vous avez écrit ce roman, vous appliquez un peu plus la méthode Coué à vous-même ?
Pas vraiment. Un peu, parfois, mais pas vraiment.
Merci infiniment, Etienne Kern, pour cet entretien.
Merci Thomas.
La vie meilleure, c'est le titre de votre nouveau roman, paru aux éditions Gallimard, en cette rentrée littéraire, qui, je le rappelle, fait partie de la première sélection du prix Goncourt. Amis auditeurs et auditrices, l'entretien du jour avec Etienne Kern est bien sûr à retrouver sous forme de capsule auditive en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8, à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite le meilleur et surtout le plus important, d'avoir de belles lectures.